같이
Merci d'écouter RFI, il est minuit ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Simon Bourtembourg.
24h en France, largement dédiée à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est ouverte ce lundi à Nice. Dans 15 minutes, le reportage France nous emmène à Boulogne-sur-Mer, le plus gros port de pêche du pays. Mais d'abord dans le journal, on entendra l'un des représentants de l'ONG Greenpeace, cette fois au sujet du chalutage, une technique de pêche très destructive pour la vie marine et plus que jamais décrié, nous l'entendrons. À la une de cette édition également, ces rassemblements ce soir à l'appel de LFI et des écologistes pour demander la libération de l'équipage du Marlene. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé dans la journée l'arrestation illégale par Israël des militants à bord du navire humanitaire, parmi lesquels l'eurodéputé Rima Hassan. Nous l'entendrons. Emmanuel Macron parle lui de honte concernant le blocus israélien. Le président français qui est aussi revenu ce lundi sur la dissolution de l'Assemblée nationale qu'il prononçait il y a un an jour pour jour, à dissolution en réponse au succès historique du Rassemblement National aux Européennes, le RN qui fêtait d'ailleurs ce lundi le premier anniversaire de cette victoire avec ses partenaires européens, reportage à suivre dans quelques instants. Et puis en fin d'édition, nous le verrons, les JO 2024 ont rapporté 3 fois plus que prévu, une bonne nouvelle pour le sport français qui va largement profiter de ces bénéfices inattendus.
24 heures en France.
C'est donc escorté par des navires israéliens que le voilier Marlene est arrivé ce soir au port d'Ashdod en Israël. Fin de parcours donc pour le bateau humanitaire qui était parti d'Italie et intercepté la nuit dernière par l'État hébreu. Parmi les membres d'équipage, l'eurodéputé Rima Hassan et la suédoise Greta Thunberg qui ont donc tenté de briser le blocus maritime israélien sur Gaza. Ce soir, Emmanuel Macron assure que la situation des ressortissants français du Madeleine est suivi avec beaucoup de vigilance. De son côté, Jean-Luc Mélenchon dénonce un acte de piraterie de l'armée israélienne et dit craindre le pire pour les militants arrêtés. Son parti, la France Insoumise, et plusieurs ONG ont donc appelé à des mobilisations partout dans le pays. Reportage à Paris de Théo Renaudon.
Nous sommes tous des enfants de Gaza.
Là-bas, il y a une pancarte avec le portrait d'un homme imprimé en noir et blanc. On va essayer d'aller voir celle qui le brandit. Votre prénom ?
Lisa. C'est un portrait de Yanis Mavdi, qui est journaliste pour Blast et qui a été kidnappé.
Donc un média français.
Qui a été kidnappé ce matin par Israël alors qu'il faisait partie de l'équipage de la flotilla pour Gaza.
C'est maintenir la pression, ce rassemblement.
De dire qu'on lâche pas, qu'on partira pas tant que Rima n'est pas libéré, tant que nos camarades ne sont pas libérés et que. Voilà quoi.
Emmanuel Macron a appelé au rapatriement au plus vite des Français de l'équipage. Pour vous, c'est quoi ? C'est une réaction qui est trop tiède ?
Nous ne demandons pas à notre président Macron d'intervenir pour la libération des 12 du Madeleine. Nous lui demandons d'intervenir pour que le Madeleine puisse repartir avec son équipage pour aller à Gaza.
Je dis qu'ils ont réussi leur entreprise.
Devant un mur de caméra, Jean-Luc Mélenchon, principale voix pro-palestinienne en France. Pour lui, l'opération a mis en lumière le blocus maritime israélien sur Gaza.
Car ils ont en une nuit obtenu et fait davantage que n'avait fait le gouvernement français et tous les gouvernements du monde pour mettre en cause la politique criminelle de M. Netanyahou.
Le leader de gauche exige la libération immédiate de l'équipage du Madeleine.
Un reportage signé Théo Renaudon. Alors que 172 rassemblements en soutien au Madeleine ont été recensés en France ce lundi, la France Insoumise a revendiqué 150 000 manifestants en France, dont 50 000 rien qu'à Paris. La France accueille pour une semaine la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice et la Côte d'Azur comme vitrine de l'engagement international de la France en faveur de l'environnement. C'est donc Emmanuel Macron qui a été le premier à prendre la parole ce lundi. Il a d'ailleurs appelé à la mobilisation pour des océans en ébullition. Le président français a annoncé que le traité sur la haute mer avait enfin trouvé ses signataires. Le texte signé en 2023 pourrait donc entrer en vigueur à partir de janvier prochain. À Nice, ces prochains jours, il doit aussi être question de l'interdiction du chalutage, une technique de pêche très destructive pour la vie marine. Sur ce point, la France a jusqu'alors déçu, assure François Chartier de l'ONG Greenpeace.
Il y a toujours cette logique un peu comme quand on se rend dans un affrontement entre les amis des pêcheurs et les amis des poissons, et que protéger les océans, c'est porter atteinte à la liberté de pêcher. Et en fait, il faut changer de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques le démontrent bien, en protégeant des aires protégées vraiment, finalement, on redonne de la ressource, on redonne de la possibilité à créer de l'emploi. Et puis l'autre chose, c'est la transformation d'un modèle industriel, d'un modèle qui repose sur le chalutage, extrêmement intensif en carburant, et vers une pêche artisanale. Ça veut dire plus d'emplois, plus de travail dans les territoires, plus de débarquements. Donc il y a tout qui est gagné, et du point de vue environnemental et du point de vue social.
François Chartier, chargé de campagne Océan au sein de l'ONG Greenpeace. A noter par ailleurs qu'Emmanuel Macron sera l'invité de France 2 ce mardi soir pour une émission consacrée au sommet de l'ONU sur l'océan. Emmanuel Macron, qui a par ailleurs ce lundi prononcé en conférence de presse, il est revenu sur la dissolution de l'Assemblée nationale, celle qu'il avait prononcée il y a de ça un an jour pour jour. Si le chef de l'État a reconnu à nouveau qu'elle n'avait pas été comprise par les Français et qu'elle n'avait pas permis de clarifier les choses, il a balayé les reproches d'immobilisme. Emmanuel Macron a en revanche affirmé ne pas souhaiter d'autres dissolutions de l'Assemblée nationale, sans toutefois exclure complètement la chose.
Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution. Mais mon habitude n'est pas de me priver d'un pouvoir constitutionnel. Parce que si des formations politiques décidaient d'avoir une approche totalement irresponsable et bloquer le pays, peut-être me retrouverais-je dans une situation où je dois utiliser la Constitution. Donc je n'ai pas l'habitude de dire que je n'utiliserai pas la Constitution. Je suis un esprit très simple. Mais mon souhait, c'est de ne pas le faire. Mon souhait, c'est que ce Parlement, qui correspond d'ailleurs à l'état du pays et de ses sensibilités, trouve le chemin d'une action utile pour le pays aux côtés du gouvernement.
Le président français Emmanuel Macron et cette dissolution il y a donc un an, elle a complètement bouleversé la vie politique française. Le Rassemblement national est sorti renforcé des élections législatives qui en ont découlé un deuxième succès après un premier, c'était aux européennes. Pour fêter justement le premier anniversaire de cette victoire, l'extrême droite européenne était réunie en France ce lundi dans un petit village du Loiret, Mormant-sur-Vernisson, un village de moins de 150 habitants. C'est là que des milliers de personnes étaient réunies pour écouter notamment le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou encore l'Italien Matteo Salvini. Les grands leaders européens d'extrême droite invités par le Rassemblement national et l'occasion pour Marine Le Pen de s'assurer un soutien de dirigeants étrangers au moment, Raphaël Delvolvé, où elle est dans une mauvaise passe judiciaire.
Chaque jour qui passe et un jour de moins avant que Marine Le Pen devient président de la République.
L'Espagnol Santiago Abascal, le chef de Vox, y croit. Et Marine Le Pen est toujours candidate. Elle parle en tout cas comme telle quand elle fustige l'Union Européenne.
C'est un empire marchand, wokiste, ultralibéral. C'est un empire contre nos nations.
Bruxelles, source de tous les maux, y compris les siens.
Voyez ce qui s'est passé en Roumanie. Les persécutions judiciaires partout. Regardez ce qui se passe en France, où l'on veut interdire à la principale opposante que je suis de se présenter à l'élection présidentielle.
Il y a un an, les européennes furent triomphantes pour l'extrême droite, mais la suite délicate. Défaite aux législatives anticipées, condamnation à de l'inéligibilité, concurrence du ministre Bruno Retailleau dans les sondages. L'europhobie décomplexée permet de rester présidentiable et assure le soutien de dirigeants étrangers. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est dithyrambique.
Marine est une personne formidable, une combattante courageuse. La France doit être vraiment très riche pour se permettre ce luxe de ne pas l'avoir comme présidente.
La situation est loin d'être morose, se rassure un élu RN à la fin du meeting. Ou comment, avec l'ennemi Union Européenne, se donner une stature et de l'espoir pour un avenir incertain.
Raphaël Delvolvé, depuis Mormant-sur-Vernisson dans le Loiret. Ils sont accusés d'avoir voulu s'en prendre à la communauté musulmane de France. 16 militants d'un groupe ultra-droite seront jugés à partir de mardi à Paris. Le chef d'inculpation retenu est celui de participation à une association de malfaiteurs terroristes. Tous ont rejoint entre 2017 et 2018 le groupe AFO pour Action des Forces Opérationnelles. Il s'agit d'une organisation hiérarchisée et structurée, planifiant des actions violentes concrètes dans des lieux symboliques de l'islam, c'est ce qu'indique en tout cas le parquet. Les détails avec Laura Martel.
Ces 13 hommes et 3 femmes, ingénieurs, infirmières, ex-policiers ou même diplomates, ont intégré le groupe AFO dans le but revendiqué de combattre l'emprise musulmane qui s'installe en France. Face à des prévenus qui se définissent comme des patriotes, voire des résistants et contestent toute intention terroriste, le parquet estime que l'enquête a confirmé l'existence de projets clandestins ciblant des membres de la communauté musulmane dans le cadre d'une organisation hiérarchisée et structurée, fondée autour d'une même idéologie, alimentée par l'assimilation du terrorisme djihadiste à l'islam en général et la crainte du grand remplacement. Parmi les projets envisagés, une opération halal consistant à empoisonner au cyanure ou à la morora des produits halal dans les supermarchés pour, je cite, discréditer la nourriture halal, faire exploser la porte d'une mosquée ou encore tuer 200 imams radicalisés. Des armes à feu, des milliers de munitions ainsi que des éléments entrant dans la fabrication d'explosifs ont été retrouvés en perquisition. Initialement considérés comme criminels, les faits ont été requalifiés en délit. La peine encourue est donc moins lourde. La juge d'instruction a suivi en cela les réquisitions du parquet antiterroriste qui explique à l'AFP avoir, en dépit de la gravité des projets proposés, appliqué sa politique pénale habituelle lorsque les projets d'action violente ne sont pas pleinement finalisés.
Laura Martel du service France de RFI. Et puis cette bonne nouvelle pour le sport français, Tony Estanguet, patron des Jeux de Paris, revoit à la hausse l'excédent de son budget. Le bénéfice de l'organisation des Jeux Olympiques avait été estimé à 28 millions d'euros en décembre dernier. Il sera finalement 3 fois plus élevé que prévu. Solène Ravenel.
À quelques jours de la clôture des comptes du comité d'organisation, celui-ci a revu à la hausse son bénéfice. Tony Estanguet, président du COJO, a donc annoncé un excédent budgétaire de 76 millions d'euros, presque 3 fois plus élevé que le montant de 26 millions avancé en décembre dernier. Il s'agit principalement de revenus privés, issus de la billetterie, des sponsors et des droits médias reversés par le Comité international olympique. Cette annonce est une bonne nouvelle pour Paris 2024, d'abord parce que les comités d'organisation dégagent rarement des bénéfices. La dernière fois, c'était lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec un bénéfice de 36 millions d'euros. Mais aussi parce que c'est de l'argent qui va au sport français, explique Tony Estanguet, puisque 80% de ce bénéfice sera reversé pour financer les athlètes et les projets sportifs en France, notamment ceux lancés par Paris 2024, comme la journée paralympique ou l'apprentissage de la natation pour tous. Par ailleurs, plus de 15 millions d'euros seront reversés au Comité national olympique, une manne bienvenue alors qu'après les Jeux, le ministère a largement coupé les subventions publiques versées à l'instance.
Football et la fin de l'aventure à Vasco de Gama pour Dimitri Payet. Fin mars, une avocate brésilienne avait porté plainte à Rio pour violence physique et psychologique à l'encontre du joueur français.
24 heures en France. Simon Bourtembourg.
Deuxième partie de cette émission consacrée à l'actualité française. Retour à Nice avec l'invité de 24 heures en France. Nice qui accueille la 3e conférence de l'ONU sur les océans et en marge des débats de la communauté internationale sur la préservation des océans. La Biennale de Nice bat son plein. La ville du sud-est de la France qui célèbre pleinement cette année l'année de la mer. 11 expositions ont investi les différents musées de Nice. L'occasion pour le sculpteur et plasticien Hugo Chiave d'exposer ses œuvres. Il s'est entretenu avec Lisa Giroldini.
Hugo Schiavi, bonjour.
Bonjour.
Votre installation, elle est sur le monde des abysses. Elle est exposée en ce moment dans la grande halle du 109. Que raconte cette œuvre ?
En fait, cette œuvre part d'un constat à la fois alarmant et fascinant, c'est qu'on ne connaît pas les abysses. Les abysses, en fait, sont un peu la dernière terra incognita du monde dans lequel on vit. On connaît mieux la Lune et Mars que le plancher océanique. Et pourtant, il est déjà absolument menacé par les industries. Donc l'œuvre parle de ça, parle d'un imaginaire qu'on a autour des océans. Donc je me suis intéressé autant à l'imaginaire marin antique qu'aux mythologies plus contemporaines. C'est un imaginaire développé à partir de l'inconnu, de ces manques dans l'histoire et dans la science qu'on a au sujet de ce monde-là. J'ai créé une œuvre peuplée de créatures hybrides qui sont issus de la hybridation entre le monde humain et le monde naturel de ces fonds marins.
Quelle forme prend cette installation ? Comment vous avez créé cette zone de minuit, comme elle s'appelle ?
C'est effectivement une installation, c'est important pour moi de le rappeler, parce que c'est une œuvre en soi. Il y a des sculptures, il y a un travail sonore, il y a des vidéos. Mais c'est un tout, une installation immersive. La zone de minuit, effectivement, c'est le titre de l'installation. C'est aussi le nom qu'on donne aux abysses. Enfin, il y a un endroit très spécifique de la colonne d'eau qui est situé à partir de 2000 mètres de profondeur à l'endroit où, où les rayons du soleil ne passent plus. La lumière y est absente totalement. Et c'est l'endroit où la communication unique, ou en tout cas principale de ces créatures, se fait par bioluminescence.
Aucune des créatures qui sont présentées dans l'installation n'existe pour de vrai. De quoi vous vous êtes inspiré pour les imaginer ?
Je me suis évidemment inspiré des créatures qui existent dans les abysses, mais c'était pour moi important et même indispensable de pas en faire une représentation, de pas en faire une espèce de pastiche de ce que pourraient être des créatures des abysses. Et c'est même d'ailleurs probablement là que tout l'historique de ce projet commence, c'est-à-dire toute la partie manquante.
Pour l'aspect sonore de l'œuvre, vous avez travaillé avec un bioacousticien. Quel genre de son il a pu vous partager ?
Des sons de mammifères marins, de cachalots notamment, pas seulement, de coraux et aussi des sons anthropiques. Mais on a aussi beaucoup travaillé à partir de sons générés artificiellement. C'est ça qui est aussi très important dans cette installation, c'est que, au même titre que le travail des sculptures et le travail des vidéos, le son aussi est une forme d'hybridation entre des sons organiques, des sons synthétiques. Et on a vraiment travaillé ce dispositif sonore comme ça. Ça a été un travail assez intense parce que déjà, pour gérer l'acoustique d'un lieu pareil, c'était assez complexe. Et surtout, c'est un son qui voyage, on est en multidiffusion, donc... c'est pas une simple nappe sonore, on a vraiment un son qui se déplace. Et ce son qui se déplace, c'était aussi important pour nous, pour rendre vivantes ces créatures aussi.
Merci Hugo Schiavi.
Merci à vous.
Le sculpteur et plasticien Hugo Schiavi au micro de Lisa Giroldini.
Reportage France.
On reste au bord de l'eau, mais cette fois dans le nord de la France. On vire de bord vers Boulogne-sur-Mer. La ville accueille le port de pêche le plus important du pays. Un statut acquis grâce au développement de la pêche industrielle. Alors, sur les bords de la Manche, d'énormes chalutiers pêchent sans limite dans les aires marines protégées françaises. Reportage à Boulogne-sur-Mer de Sébastien Farcy.
Laetitia Bizio avance sur le quai de Boulogne-sur-Mer, le plus important port de pêche de France. Et grâce à une application de téléphone, cette spécialiste de l'association environnementale Bloom identifie les chalutiers présents au large, y compris ceux qui ne devraient pas être là.
Donc on a le Zeeland qui mesure 115 mètres, qui est dans l'aire marine protégée des bancs des Flandres. Vous avez aussi un bateau qui s'appelle l'Africa qui mesure 126 mètres, avec une vitesse assez faible, c'est pas du transit, c'est vraiment de la pêche. Donc rien que l'aire marine protégée des bancs de Flandres, on peut compter le nombre de points bleus. Donc, ils sont une quinzaine dans une toute petite zone qui est censée être protégée pour l'habitat. Et on a des navires de pêche qui pêchent vraiment le fond, donc qui sont conçus pour hacker le fond marin.
Cette région des Hauts-de-France compte trois aires marines protégées, en tout cas sur le papier. Car beaucoup de pêcheurs, eux, n'en connaissent même pas l'existence. À l'instar de Pierre Leprêtre, il est propriétaire du chalutier Marmoussan 3 et il est en train de débarquer une cargaison de 2 tonnes d'encornés et de merlan.
Il y a les aires marines protégées au large.
Et en face de Calais, dans les eaux anglaises, les Anglais ont mis une grande aire marine protégée. Et ben là, on ne peut plus aller dedans. Et normalement, il y a du poisson. Hein,
et du côté français aussi, il y a des aires marines protégées, non ?
Il n'y en a pas encore, non. Bon, après, bon, c'est pour parler, mais bon.
L'association Bloom a calculé qu'en 2023, les navires de plus de 15 mètres ont pêché autant à l'intérieur des aires marines protégées françaises qu'en dehors. Un paradoxe. Dans les Hauts-de-France, certaines techniques destructrices comme la Seine démersale, qui déploie des filets de 2 km², empirent la situation. Et ceci achève les pêcheurs artisanaux plus respectueux de cette faune marine, comme Laurent Merlin.
Il n'y a plus rien le long de notre côte, tout est rasé, on ne pêche plus un poisson. Et du coup, bah, pour pêcher un peu de sol, on doit partir loin. Mais là, c'est de pierre en pierre. Bah, là, regardez, j'ai deux collègues, ils ont fait 37 000 de route aller pour aller pêcher un peu de sol, ils n'avaient même pas 100 kilos. Avec la marée de face, ils ont mis 5 heures pour y aller. Alors qu'avant, on mettait une demi-heure, une heure, on sortait, on pêchait la sole, quoi.
Le comité régional des pêches affirme avoir fait installer des rondelles de caoutchouc sur les filets pour réduire l'impact sur les fonds marins de ces zones. Mais le résultat de cette technique n'a pas été mesuré et selon les standards internationaux, elle demeure incompatible avec la protection d'une aire marine. Sébastien Farcy, Boulogne-sur-Mer, RFI.
À Boulogne, où il est à minuit 19, 2 heures de plus à Saint-Denis de la Réunion.
Le journal de l'Outre-mer.
Place à présent à votre rendez-vous avec l'actualité française des Outre-mer, édition présentée ce soir par Benoît Ferrand. Et à la une, ici encore, la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Trouver des solutions, parler des difficultés rencontrées lors des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, il s'agit, pour les représentants des territoires ultramarins, d'exposer les réalités et présenter les solutions mises en œuvre, comme par exemple le déplacement de certains villages, comme cela a été décidé en Martinique ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. En Guadeloupe, une dizaine de communes sur 32 sont concernées par la hausse du niveau des mers. Sylvie Gustave Diduflo, vice-présidente de la région et présidente de l'Office français de la biodiversité, est à Nice pour parler de toutes ces situations. Elle est au micro de Caroline Marie.
Nous allons assister à deux sommets en fait. Il y a le sommet des îles du 8 au 10 juin et sur la vulnérabilité du contexte insulaire. Donc nous, région Guadeloupe et surtout l'archipel de la Guadeloupe, nous sommes particulièrement exposés avec la montée du niveau des océans. Et puis tous les effets collatéraux du réchauffement climatique, je veux dire l'érosion accélérée des côtes, mais également tous les écosystèmes qui nous protègent sont aussi impactés, à savoir les mangroves, les récifs coralliens. Et donc, nous attendons des actions extrêmement concrètes. Sur le sommet des océans, qui est un sommet beaucoup plus large, eh bien, nous allons pouvoir aussi débattre de cette vulnérabilité, mais pas que. On va aussi débattre de la décarbonation, de ce réchauffement climatique, de l'impact sur la biodiversité. Et puis aussi, je crois que ce qui est très important, c'est aussi comment accompagner nos populations à ces modifications. Quand je vois, par exemple, dès 2023, nous avons eu des canicules marines exceptionnelles qui ont entraîné 90% des blanchissements de nos récifs coralliens. Or, le poumon économique de l'archipel de la Guadeloupe, Jarry, eh bien, ne peut exister qu'à cause de deux récifs coralliens majeurs, celui du petit cul-de-sac marin et celui du grand cul-de-sac marin. Donc, si ces récifs coralliens venaient à disparaître, c'est le poumon économique de la Guadeloupe qui serait sous l'eau, tout bonnement.
Ils seront une dizaine élus, représentants d'associations, pêcheurs ou encore jeunes ambassadeurs à représenter la Guyane à ce troisième sommet mondial des Nations Unies pour les océans. Marie Trémollet, chargée de la coopération régionale au WWF, évoque au micro d'Enzo Dubessé le temps fort de la conférence pour le département français de l'Amérique du Sud.
Le temps fort pour cette délégation de Guyane aura lieu le mardi 10 juin, journée qui démarrera avec la signature d'une convention entre le WWF et l'Agence française de développement pour le projet Great Ocean, projet de coopération sur le plateau des Guyanes, pour la mobilisation de la société civile en faveur de l'océan, mais également pour lutter contre la pêche illégale. Cette journée se terminera aussi avec une table ronde dédiée au plateau des Guyanes et son problème non résolu de la pêche illégale. En plus de ces deux événements, on aura bien entendu les représentants pêcheurs et les jeunes ambassadeurs aux océans de Guyane qui participeront à différents événements tout au long de la semaine.
On termine avec le grand marché des petits créateurs à la halle des manifestations de la ville du Port dans l'ouest de la Réunion. Des jeunes de 6 à 18 ans ont proposé aux visiteurs des objets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués à partir de matériaux recyclés. Reportage Andri Rakotondravoul.
Bijoux, porte-clés, rangements, objets conçus à partir de matériaux recyclés, fruit d'un travail collectif mené sur plusieurs mois, les petits créateurs n'ont pas manqué d'imagination.
On a recyclé les bouchons de coca pour faire des anneaux, du fer pour faire des bracelets.
Là, il y avait des morceaux de bois qu'on n'avait pas besoin, alors moi j'ai utilisé pour faire une décoration de chambre.
En valorisant ces créations issues du recyclage, les enfants questionnent sur les habitudes de consommation et posent un regard sur l'économie circulaire. Julie Miller-Yosga de l'association WebCup à l'origine du projet.
Pour nous, c'est très important parce qu'on a déjà vu en quelques mois un changement dans leur mentalité. Ils demandaient s'ils pouvaient eux-mêmes apporter leur argent de poche pour acheter soit les petits objets qu'ils ont créés, soit les objets des autres stands. Donc, c'est très intéressant pour nous de voir qu'en très peu de temps, on peut faire évoluer une vision sur comment on peut créer le monde économique de demain et faire quelque chose de beaucoup plus respectueux de l'humain et de l'environnement.
Et les visiteurs ont été agréablement surpris.
C'est génial hein, que la ville du port continue à faire ce genre d'action. En plus, il met en valeur les enfants.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée Benoît et à demain.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Votre conseil santé avec Caroline Paré. Aujourd'hui, on essaye de comprendre les enfants, les tout-petits, ceux qui ne parlent pas encore.
Docteur Ndeye Mariam Diouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à l'université de néonatalogie de l'hôpital d'Al Hajjam à Dakar, au Sénégal. Docteur Diouf, comment comprendre un bébé qui ne parle pas encore? À quels signes il faut être finalement attentif?
Découvrir bébé, c'est une découverte mutuelle. Il faut savoir observer et devoir demander de l'aide pour des signes comme la fièvre, le bébé qui fait de la température, le bébé qui a une coloration de la peau qui est jaune et des yeux, un bébé qui vomit, un bébé qui somnole, qui n'a pas le même comportement que d'habitude, qui pleure beaucoup ou qui n'accepte pas d'être réactif, qui refuse de téter, un bébé qui a un saignement au niveau de l'ombilic qui n'est pas encore cicatrisé, un bébé qui vomit et un bébé également qui a des difficultés respiratoires.
Et est-ce que tous les pleurs ont une signification, forcément?
Un bébé qui pleure, pleure forcément pour une chose bien précise. Ça peut être juste la couche qui est pleine, ça peut être parce qu'il a faim, ça peut être parce qu'il est dans un inconfort, il fait trop chaud, ou bien qu'il a une éruption, que ça gratte. Donc un bébé pleure forcément pour une chose, surtout si les pleurs persistent.
Alors comment rassurer les mamans en leur disant que oui, elles peuvent savoir, il y a une explication, il faut la trouver. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Alors, les mamans doivent partir du principe que elles sont des pédiatres. Je leur dis toujours, vous êtes des pédiatres. Pourquoi? Parce que vous vous occupez d'un bébé qui ne sait pas parler et pourtant, vous les amenez en consultation pour un signe que vous avez remarqué qui n'était pas présent. Pas forcément pour les signes que je viens d'énumérer. Quelquefois, c'est un signe qu'on n'énumère même pas comme une urgence que vous avez remarqué et vous l'amenez. Même si c'est un signe qui n'est pas grave, le fait que vous l'ayez remarqué dit que vous êtes attentif à votre bébé. Donc, il faut vraiment vous faire confiance, avoir une attitude zen et observer et pouvoir demander de l'aide quand il le faut.
Merci, Dr. Ndeye Mariam Diouf, pédiatre à l'unité de néonatalogie de l'hôpital d'Al Hajjam à Dakar. Au Sénégal, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Priorité Santé en podcast sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site rfi.fr.
Caroline Paré et son conseil santé pour refermer cette édition de 24 heures en France. Merci à Valentin Vaner à la réalisation et à Loïc Buissière à la rédaction en chef. Dans quelques instants, la dernière édition d'Afrique Soir. Mais d'abord, la bourse et on part à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine en faisant du surplace et clôture à 42 762. Le Nasdaq s'offre 61 points pour finir à 19 591. Les traders n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils espèrent que la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui à Londres débouchera sur un apaisement durable des fortes tensions entre les deux pays. Toutefois, rien n'est moins sûr. Les traders tablent aussi sur une légère accélération des hausses de prix au mois de mai, accélération qui sera révélée mercredi par l'indice des prix à la consommation. L'inflation aux États-Unis, sans tenir compte des produits énergétiques et alimentaires, serait ainsi de 0,3% au mois de mai contre 0,2% en avril. On y voit là probablement les premiers effets de la répercussion sur les prix de détail des hausses de droits de douane sur les produits importés. Dans ce contexte, le marché obligataire est encore relativement serein, ce qui ramène le rendement du T-bond à 10 ans à 4,49. Pas de répit pour le dollar, l'euro remonte à 1,1424. Les fortes divisions au sein des Républicains, au Congrès, à l'exception de leur accord sur l'importance de réduire les impôts, tout cela fait craindre une aggravation durable du déficit budgétaire américain, ce qui commence à affecter le dollar. Le nombre de puits de pétrole et de gaz en exploitation aux États-Unis continue de baisser, le voici au plus bas depuis 2021. Le baril américain de pétrole regagne plus d'un pour cent et revient au-dessus de 65 dollars. L'indice Dow Jones aujourd'hui est inchangé, le Nasdaq grimpe de 0,3%.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.